Conférence primée par le Père Philippe à Saint-Joseph le 28 décembre 1986.
Elle était tellement liée à la petite Thérèse Lucas lui avait dit qu'elle devait prolonger sa mission. Et que c'était à petite Thérèse qui lui demandait ça. Quand Marthe n'en pouvait plus à un moment donné, la petite Thérèse est venue lui apparaître et lui a demandé de rester encore sur la terre pour prolonger sa mission. Et je crois que la petite Thérèse et Marthe, ce sont pour nous les prophètes de ce renouveau de l'Église qui se fait par la petite voix, qui se fait par la pauvreté. C'est l'Église, on dira l'Église des pauvres, vous voyez, c'est très mal dit. C'est l'Église pauvre, c'est pas la même chose. C'est l'Église qui doit entrer dans une pauvreté très nouvelle. Je crois, subissant de fait une sorte de d'attaque très forte de toutes les idéologies athées contemporaines. Et l'Église ne peut se renouveler que par la pauvreté, ne peut pas se renouveler autrement. Une pauvreté qui ne veut pas dire du tout, alors qu'on abandonne tout. Non, une pauvreté intérieure, qui est la petite voix. Et cette pauvreté intérieure nous permet de comprendre comment la Sainte Famille doit être pour nous le modèle de notre renouveau religieux et du renouveau de tous les foyers chrétiens et du renouveau de l'Église. Alors là, ça donne à cette exigence de la Sainte Famille quelque chose de très grand pour nous. Voyez la pauvreté de Jésus, sa grâce sacerdotale, à la différence de la grâce, de la justice originelle, celle d'Adam. La grâce de notre nouvel Adam est une grâce de pauvreté, parce que c'est une grâce sacerdotale, parce que c'est une grâce de médiateur et de médiateur dans l'ordre du salut, et donc il doit porter sur lui l'iniquité du monde. C'est la plus grande des pauvretés, hein. Porter l'iniquité du monde, être l'agneau qui accepte d'être rejeté de tous, même de Dieu. Anathème pour ses frères. C'est la plus grande des pauvretés, ça. La pauvreté de l'agonie, la pauvreté de la croix, la pauvreté du sépulcre. Il est le pauvre. On ne peut pas penser une pauvreté plus grande. La pauvreté de la grâce sacerdotale du Christ. Et la grâce sacerdotale du Christ implique justement ce point de vue de la béatitude des pauvres pour pouvoir être médiateur dans l'ordre de l'amour. On ne peut pas être médiateur dans l'ordre de l'amour si on n'est pas pauvre et radicalement pauvre. Et ça, c'est inscrit au plus intime du mystère du sacerdoce du Christ. Voyez, peut-être qu'on devrait comparer ce que l'Esprit Saint a demandé aux ordres mendiants du Moyen Âge, de la fin du XIIe et du XIIIe siècle. Les ordres mendiants, Saint François, Saint Dominique. Et cette exigence de pauvreté que Saint Dominique a inscrit dans son testament, en maudissant d'avance tous ceux qui ne comprendraient pas cette pauvreté et qui construiraient des couvents trop majestueux et trop grands, trop luxueux. Saint Dominique les a maudits, lui qui était si doux. Eh bien, je crois qu'on devrait comprendre pour nous, dans la lumière de la petite Thérèse, dans la lumière de Marthe, ce que doit être cette pauvreté sacerdotale du Christ. Et je dis bien cette pauvreté sacerdotale du Christ, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup. l'époque du sacerdoce, et on oublie l'exigence de la grâce sacerdotale du Christ. On oublie que ce qui caractérise la grâce sacerdotale du Christ, c'est d'être une grâce qui implique cette pauvreté intérieure pour pouvoir être médiateur dans les choses saintes, pour le salut. Le sacerdoce est celui qui porte la misère des autres pour le sauver. Puisqu'il se présente en face de Dieu comme le seul responsable de toute l'humanité. C'est très très important, ça, parce qu'on ne le met pas assez en lumière. Voyons. Et je crois qu'on devrait mettre ça très en lumière. Parce que ça devrait comprendre un peu mieux ce que doit être la pauvreté que Dieu réclame à la communauté Saint-Jean, puisque nous sommes liés au sacerdoce de Jésus d'une manière très particulière. La pauvreté de Marie, c'est très net. Elle est pauvre en tant que mère. Elle n'a aucun droit sur son fils. Elle est totalement servante. Et elle n'a cessé de le dire. Petite servante pauvre, n'ayant aucun droit. Et ceci jusqu'à la fin de sa vie. Puisque quand elle a terminé le service auprès de Jésus à la croix, Jésus lui donne un autre service auprès de Jean. Être médiatrice dans l'ordre de la grâce, grâce sacerdotale, c'est donc être aussi, à sa manière, très pauvre. Et la pauvreté de Joseph, je crois que ça c'est visible, c'est la pauvreté d'un homme. Vous voyez, il y aurait trois pauvretés qui caractériseraient la Sainte Famille. Et je crois que c'est très important pour nous de creuser ça. Parce que ça nous permettrait peut-être de mieux comprendre nos trois vœux de religion présents dans la Sainte Famille, présents en esprit. Nous ne sommes pas au même niveau que la Sainte Famille, nous y tendons. C'est leur raison qui consiste à tendre vers Dieu, n'est-ce pas ? On n'y est pas encore, on y tend. Alors on recherche, on recherche la Sainte Famille, on tend vers cette contemplation de la Sainte Famille. On n'y est pas encore entièrement et totalement. Et c'est ça le propre des vœux. Les vœux, c'est une promesse, donc c'est tendre vers. C'est l'état de celui qui tend vers. Le religieux, c'est pas le parfait, c'est celui qui tend vers la perfection. C'est-à-dire qu'il tend vers la Sainte Famille. Il tend vers la Sainte Famille par les vœux. Il désire tendre vers la pauvreté de Joseph, vers la pauvreté de Marie, vers la pauvreté du sacerdoce du Christ. Je crois qu'on découvrirait bien dans nos vœux des liens avec cette triple pauvreté qui caractérise la Sainte Famille. Sainte Trinité est au-delà de la famille. Elle est une, elle est Dieu. Mais elle est source directe de la Sainte Famille. Et c'est là où, justement, il y a quelque chose de tout à fait unique, et c'est pour ça qu'elle est contemplative. Elle est sacrée, elle est sainte, elle est contemplative. Et elle vient directement de Dieu. C'est Dieu qui, non seulement a voulu la Sainte Famille, mais j'allais dire qu'il l'a pensé dans sa sagesse. C'est pas Joseph, c'est bien évident. C'est pas Marie, et c'est pas Jésus, c'est le Père. Le Père ayant voulu, au terme de la création, le couple, l'homme et la femme. C'est vrai. L'homme et la femme achèvent toute la création, toute l'œuvre de la création. Comme il y a eu la brisure du péché, le Père reprend tout dans une nouvelle famille. Une nouvelle famille toute différente de la première, plus grande que la première. D'où l'abîme qui existe entre Ève et Marie. Se retrouve entre eux. La première famille, telle que Dieu l'aurait voulu, et cette famille qui est le renouveau de toute l'humanité. Et ce renouveau de toute l'humanité se fait d'abord de cette manière-là. Et alors, cette grâce chrétienne, c'est la famille de toutes les familles chrétiennes. C'est la première famille qui est chrétienne puisqu'elle est du Christ et qu'elle est comme fruit le Christ. Vous voyez qu'elle est l'image de la très sainte Trinité. Joseph, c'est l'autorité du Père. Jésus, c'est le Verbe assumant la nature et par la plénitude de sa grâce sacerdotale nous fait comprendre le grand mystère de la médiation. Il y a un lien entre le sacerdoce du Christ et le Verbe. Sacerdoce de lumière. Sacerdoce de médiation dans la lumière et dans la sainteté de l'amour. Et Marie, elle est liée à l'Esprit Saint. On voit bien cette icône, cette image de la très sainte Trinité. Et pour comprendre pleinement la Sainte Famille, il faut regarder le mystère de la très sainte Trinité. C'est relativement à la très sainte Trinité que nous comprenons le pourquoi de la Sainte Famille, le pourquoi ultime de la Sainte Famille, c'est parce qu'elle doit être pour nous, dans notre humanité, comme l'Église de la très sainte Trinité. Je crois qu'on peut dire que la Sainte Famille, c'est l'Église de la très sainte Trinité. C'est la petite Église domestique de la très sainte Trinité. Puisque par la grâce chrétienne nous est révélé le Père. Il faut donc qu'il y ait comme une image vivante du Père. Et Joseph représente cette image vivante du Père pour nous. Évidemment, à travers un homme, c'est sûr. C'est pour ça que je dis une image, une icône. Mais c'est l'autorité paternelle. Une autorité paternelle qui s'exerce dans la pauvreté. Parce que pour être l'image du Père, c'est-à-dire être lié à l'autorité du Père, est le père, l'époux sans pouvoir. Avec autorité, une autorité toute divine d'amour. Une autorité d'un prieur qui commande à des contemplatifs. Le prieur d'une communauté contemplative. C'est vrai, avoir l'autorité sur Marie, c'est pas commun d'avoir l'autorité sur quelqu'un qui est beaucoup plus saint que soi-même. C'est toujours très humiliant et très appauvrissant d'exercer l'autorité auprès de quelqu'un qui est beaucoup plus saint. Joseph devait toujours se demander, mais est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça la volonté de l'Esprit Saint. Joseph devait exercer l'autorité sur Marie pour sanctifier Marie. Et Marie réclamait son autorité. Et l'épître aux Hébreux, cette fameuse épître aux Hébreux, aux Éphésiens, n'est-ce pas? Cette fameuse épître qu'on n'ose plus lire parce qu'on ne la lit pas dans la lumière de la Sainte Famille. Dans la lumière de la Sainte Famille, c'est éclatant. Parce que c'est justement l'autorité extraordinaire de Joseph sur Marie. Une autorité merveilleuse. Et Marie et Joseph exerçaient leur autorité sur Jésus. Vous voyez, quand Joseph et Marie faisaient leurs petits conseils pour savoir comment éduquer Jésus, ça devait être extraordinaire. C'était à l'intérieur de leur contemplation et de leur prière. Éduquer Jésus. Ils avaient le devoir de le faire jusqu'au moment où Jésus a 12 ans. Subitement, Jésus rappelle pour une nouvelle étape qu'il doit être tout entier aux affaires du Père. Là, il y a sûrement quelque chose de très très important au niveau de la Sainte Famille pour l'exercice de l'autorité du Père et de la Mère, puisque Jésus passait de l'autorité maternelle à l'autorité paternelle à 12 ans. Il apprenait son métier. Il apprenait l'art d'être charpentier sous la conduite de Joseph. Alors c'est peut-être pour Joseph qu'il y a ça. C'est pour que Joseph exerce son autorité d'une façon toute particulière. Marie n'avait pas eu besoin d'un exemple, elle avait tout compris. Mais Joseph avait peut-être besoin d'un exemple tangible pour comprendre. Ce qui est sûr, c'est le passage de Marie à Joseph. Et ça se fait à Jérusalem. Vous voyez, changement de charge. Changement de l'autorité. Passage de Marie à Joseph. À Jérusalem, avec ce fait de Jésus qui passe devant Marie et Joseph pour être tout entier aux affaires du Père. Pour Joseph, c'est éclatant comme signe, comme exigence de l'exercice d'une autorité qui doit se faire d'une manière très particulière. Apprendre à Dieu le métier de menuisier. C'est comme quelque chose. La docilité de l'enfant Jésus. L'homme sait très bien qu'une mère, quand elle aime beaucoup, n'est jamais tyrannique. Mais un homme qui exerce l'autorité, l'autorité faire apprendre son métier, donc un point de vue artistique, l'art est très vite tyrannique, on sait bien. Et quand on ne fait pas la distinction entre la prudence et l'art, ça fait des dégâts terribles, parce que l'art, c'est les voies déterminées de l'art, c'est pour ça que c'est tyrannique, les voies indéterminées. la sainteté. C'est pour ça qu'elle est si souple. Et qu'elle doit être souple. Tandis que l'art est très très déterminé. Joseph exerce un art en père. Cet art est soumis à sa paternité. Il apprend à l'enfant Jésus son métier. Et Jésus a appris son métier auprès de Joseph. Je suis persuadé que ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est pour que Joseph comprenne que son autorité de père est tellement soumise. Vous voyez, il y a deux grands moments où Dieu enseigne directement Joseph. Quand Joseph pense renvoyer Marie, et quand Joseph doit exercer l'autorité. C'est très curieux. Dans la vie de Saint-Joseph, il y a là quelque chose de particulier. Rappelez ça quand on prêchera la retraite au Saint-Joseph. À nos Saint-Joseph. Parce que je suis persuadé qu'il y a là quelque chose de très très grand à creuser. Les rapports de l'art et de la prudence en Joseph. C'est pas pour rien que l'Église dit que Joseph est le patron des travailleurs, quoi. La fête, c'est le 1er mai, Saint-Joseph. La fête du travail, c'est relié à Saint-Joseph. C'est Joseph est patron des travailleurs. Patron de toutes les corporations de travailleurs. Qui s'est transformé en ce qu'on sait. N'est-ce pas ? C'est pas tout à fait la même chose. Joseph doit être pauvre dans l'exercice de son autorité pour pouvoir exercer une autorité toute divine, celle du Père des cieux. Jésus, c'est dans son humanité, dans sa grâce, et dans la plénitude de grâce, qu'il est pauvre. Une plénitude. Exercer sa médiation sacerdotale. Et toute la médiation sacerdotale du Christ a cette marque de pauvreté. C'est comme cela que on peut découvrir l'icône du Verbe de la lumière dans le cœur sacerdotal du Christ. Et puis Marie, elle est liée à l'Esprit Saint dans la pauvreté, en laissant toujours l'Esprit Saint passer devant. Alors vous voyez, il faut compléter cette icône par l'autre icône que nous connaissons bien, celle qui se réalise à la croix. Et je crois qu'on peut toujours faire ce parallélisme. Donc, Joseph. Jésus par Tiens, Marie, voilà ton fils. Et tiens, Jean, voilà ta mère. Elle est donc réciproque, établie par Jésus. Et c'est Jésus qui l'établit directement. Il donne un ordre à Marie. Il donne un ordre à Jean pour établir cette double relation. Vous avez cette seconde icône. Ces deux icônes de la très sainte Trinité. L'icône fondamentale, la Sainte Famille. L'icône ultime, la croix. Il est bien évident que l'icône de cette famille particulière, vous comprenez, ici, c'est l'Église qui naît. L'Église naît par la mort du Christ. Il faut que le grain de blé tombé en terre meure pour porter beaucoup de fruits. Et l'Église naît à partir de la mort du Christ dans cette fécondité nouvelle. De Marie et de Jean. Tandis que la Sainte Famille, elle est le fondement. Alors, elle achève toute l'ancienne alliance. L'ancienne alliance s'achève dans ce fondement. Joseph, il est relié à David. Marie, elle est reliée à David. Donc, tout le peuple d'Israël. La première église fondamentale dans l'ordre de la disposition, puisque elle n'aboutit pas l'ancienne alliance. Elle demande d'être complètement changée. Elle n'aboutit pas. Elle n'a pas son efficacité en elle-même. Doit disparaître. Jésus dépasse et il y a quelque chose de nouveau. Et nous avons alors le fondement de toute l'Église dans la Sainte Famille qui achève toute l'ancienne alliance et qui fonde quelque chose de nouveau dans la lumière de la très sainte Trinité, toutes les deux. C'est normal. Mais voyez bien que l'icône de la très sainte Trinité à la croix, Jésus, Marie, Jean, c'est quelque chose de très particulier. Jésus, à la croix, prend la place du Père. Il est notre Père. Ça ne peut pas nier. Dans son sacerdoce, l'Église est sacerdotale. Et donc, la source de l'Église, c'est Jésus. Et en tant que Jésus est source de l'Église, il est l'autorité du Père. Voyez la différence. Joseph représente l'autorité du Père. Jésus est l'autorité du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Quand Jésus réalise le mystère même de l'offrande de sa vie, il ne fait qu'un avec le Père, c'est vraiment le Père. Marie, elle est celle qui reçoit tout Jésus. Et elle est celle qui, unie à Jésus, devient source avec Jésus, de Jean. Donc Marie, elle tient la place du Fils. Et c'est vrai, dans le mystère de la compassion, elle ne fait qu'un avec l'humanité sainte de Jésus. Elle est une avec l'humanité sainte de Jésus dans son mystère de compassion. Le cœur de Jésus et le cœur de Marie sont tellement liés, ils sont un cœur. On peut dire que Marie tient la place du Fils et que Jean tient la place de l'Esprit Saint. vais me dire, mais non, c'est Marie la place de l'Esprit-Saint. C'est Marie la place de l'Esprit-Saint. Et ces gens la place du Fils. Oui, vous pouvez dire ça aussi. Parce que c'est pas la véritable Trinité. Il n'y a que Jésus, hein, qui est l'axe. Je dis que Marie tient la place du Fils parce qu'elle reçoit tout directement de Jésus. Et elle est entièrement donnée à Jésus. Et elle est une avec Jésus. Et elle est pour nous ce qui nous fait comprendre le sacerdoce du Christ. Et c'est de Marie, de Jésus et de Marie que naît Jean. Comme l'Esprit Saint provient du Père et du Fils. Vous voyez, il y a là quelque chose de très mystérieux. Je peux dire aussi que Marie est intimement liée à l'Esprit Saint. Et donc, d'une certaine manière, elle me fait comprendre le rôle de l'Esprit Saint à la croix. C'est sûr. Comme médiatrice de toute grâce. Et que Jean, d'une certaine manière, est le Fils. Le disciple bien-aimé qui devient le Fils. Puisque Jésus lui donne sa mère. Et donc, il est le Fils. Voyez, vous pouvez dire les deux. Et les deux ont un fondement. Ça, c'est au point de vue réalité théologique. Ce qui montre la perfection de cette icône. Où l'axe net, c'est le Père. Mais Marie et Jean, l'un et l'autre, représentent l'Esprit, le Fils. L'Esprit et le Fils. C'est très mystérieux. C'est sûr que l'icône Jésus, Marie, Jean, j'allais dire pour nous, pour notre communauté, on dit c'est pour nous ça. Ça, c'est très très vrai, c'est pour nous. Je crois que c'est le mystère intérieur de l'Église, c'est le rythme de l'Église. L'Église est au rythme de la très sainte Trinité. Il y a l'icône, une image, une représentation, la Sainte Famille. Et puis il y a la vie intérieure de l'Église. Il y a la vie intérieure de ce que représente une communauté religieuse. Alors, c'est vraiment ce qui s'est passé à la croix. Jésus, Marie, Jean. On est au cœur, là. Alors le renouveau pour nous, c'est de comprendre à la fois que nous devons regarder fondamentalement la Sainte Famille et nous devons comprendre que notre vie intérieure est au rythme intime de ce qui se passe à la croix entre Jésus, Marie et Jean. Et vous retrouvez des deux côtés le mystère de pauvreté. Mais c'est toujours la pauvreté qui fait le lien. C'est toujours les manques de pauvreté qui divisent. Toujours. C'est par la pauvreté que la très sainte Trinité peut à la fois être représentée par la créature et elle peut vivre dans la créature, mettre la créature à son rythme, vivre dans la créature. Il y a les deux. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Église est le temple du Saint-Esprit. Et l'Église, quand elle est le temple du Saint-Esprit, elle est le temple de la très sainte Trinité. Et la très sainte Trinité demeure en chacun. Et puis, en même temps, icône, image qui représente. Je crois qu'il y a les deux. Et ça nous aide à mieux comprendre ce que c'est que la Sainte Famille. La Sainte Famille, c'est quelque chose de fondamental. Faut surtout pas imiter matériellement. C'est quelque chose de fondamental. Ce qui nous donne l'esprit, l'intériorité, c'est le mystère de la croix. Puisque la Sainte Famille est en vue de la croix. Et la Sainte Famille s'achève à la croix. On pourrait dire que nous assistons là. Sainte Famille, c'est l'Église. Faut que le grain de blé tombe en terre, meure. Pour... Alors, c'est important de voir tout le rythme de la Sainte Famille, depuis ce qui se passe à partir du mystère de l'Annonciation. C'est le point de départ de la Sainte Famille, l'Annonciation. Jusqu'à la croix. Et à la croix, la Sainte Famille disparaît. Et met à la place de la Sainte Famille l'Église. Et dans l'Église, la partie la plus contemplative de l'Église, la vie religieuse consacrée et contemplative, qui doit vivre d'une façon très particulière du mystère de Jésus. Silence.